Parce qu'on suit tous un cheminement et on a vite fait un peu d'oublier ce que Dieu a fait. C'est pour ça que les témoignages qu'on a pu entendre ce matin, c'est bien d'entendre des témoignages, c'est bien de penser à rendre gloire à Dieu pour les petites ou les grandes choses. Et des fois, on se dit, non, mais quand même, je vais révéler soit des trucs sur ma vie, c'est un peu, enfin, ça dépend quoi, mais je veux dire, il n'y a pas de petits ou de grands témoignages. Il y a la gloire de Dieu, il y a le fait qu'on rende gloire à Dieu. Et c'est important aussi pour nos vies, pour qu'on se rappelle ce que Dieu a déjà fait par le passé. Et qu'on se dise, Dieu ne m'a pas laissé tomber par le passé, il ne va pas me laisser tomber maintenant. Et il ne me laissera pas tomber demain, ni après-demain. Et c'est facile de perdre trace de ce que Dieu a déjà fait, parce qu'on se focalise sur le présent, parce qu'on se focalise sur les difficultés, sur les problèmes qu'on peut avoir, sur les montagnes auxquelles on peut faire face. Mais on oublie que c'est Dieu qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui nous donne la capacité d'avancer, et que si on est sur cette terre, on n'est pas là pour rien. On est là parce que aussi on répond à un appel, on répond à quelque chose que Dieu veut faire au travers de notre vie, dans sa volonté. Et Christ est venu, et son seul objectif, c'était d'accomplir ta volonté, d'accomplir la volonté du Père. On peut être pris dans plein de projets, mais la Bible le dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein, ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce sont ces projets-là qui s'accomplissent. C'est pas parce que moi je veux faire quelque chose ou que je veux faire autre chose que forcément c'est l'objectif de Dieu. Mais en même temps, ça peut rentrer dans l'objectif de Dieu. Et l'intérêt, l'importance, la question que je dois me poser, c'est: est-ce que je suis dans tes projets? Garde-moi dans tes projets en même temps. Si je ne suis pas dans tes projets, si je ne suis pas dans ton plan, si à un moment donné je dévie, soit par l'appât du gain, soit par l'appât ou autre chose, si je dévie d'une manière ou d'une autre, Seigneur, reprends-moi, corrige le chemin, corrige la direction. Ça ne veut pas dire que je dois me poser 36 000 questions pour savoir est-ce que vraiment mon projet, un projet ou quoi, c'est dans la volonté de Dieu. Mais Seigneur, si ce n'est pas dans ta volonté, corrige. Montre-moi, enseigne-moi, instruis-moi. Et soyons attentifs. Parce qu'il m'est arrivé, moi, de vouloir accomplir certains projets et de voir des obstacles arriver, de dire « Oh, c'est le diable qui... !» Et de voir encore un deuxième obstacle, « Oh, c'est le diable, j'y vais, je vais et je me plante. » Et ça m'est arrivé de me planter, et j'ai compris, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui voulait m'empêcher d'aller d'avant. Je me suis battu contre Dieu. Non, restez attentifs à ce que Dieu fait, mais allons de l'avant, bien sûr. Mais Dieu ouvre des portes où il les ferme. Et le passage que je voudrais prendre dans la Bible, c'est dans le livre aux 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 17. Paul qui parle et qui, pour moi, donne une direction claire de la manière dont le chrétien, dont le croyant, peut mener sa vie sur un thème précis. Dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 17, Paul dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Et donc je voudrais prendre ce passage, je voudrais qu'on l'étudie ensemble, qu'on prenne ce passage sous plusieurs angles. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et le premier point que je voudrais souligner, c'est quand Paul dit « Christ m'a envoyé ». Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il y a une chose dont Paul est certain, c'est que Christ l'a envoyé. Et il parle de son appel. Il ne dit pas « Je suis venu ici par hasard, Christ m'a envoyé ». S'il est quelque part, Christ l'a envoyé. Il est dans un projet, il est dans un plan de Dieu. Et le socle de sa foi, c'est de croire que Christ l'a envoyé. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait se tromper, mais c'est là qu'il faut savoir être attentif. Est-ce que Dieu ouvre une porte ou est-ce que Dieu la ferme? Si Dieu nous ouvre une porte, allons-y, confiant. Et le socle de sa foi, La base sur laquelle on se tourne lorsque tout semble s'écrouler, c'est ça qui revient en première ligne quand on tremble, c'est « Quel est mon appel ?» Christ m'a appelé un jour. Un jour, je suis venu, le frère a entendu la voix de Dieu. Mais des fois, on n'entend pas la voix de Dieu, on sent quelque chose. On est tellement compliqué en nous, on est tellement vaste, on est tellement grand que, intérieurement, on est tellement profond que Dieu nous connaît dans toute notre profondeur. Et l'appel qui manifeste dans notre vie, ce n'est pas juste dans notre intelligence, c'est aussi dans toute notre profondeur, dans tout notre être que Dieu parle. L'appel de Dieu, le fondement de la vie chrétienne, c'est le moment, c'est aussi le moment où tout a commencé dans notre foi. Là où on est venu à Dieu, on a tout déposé à Christ et on a tout remis entre les mains de Dieu. Là où le Seigneur nous donne une identité, une espérance et un avenir, c'est lui qui nous a appelés. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on pourrait entendre des voix qui nous disent « Mais Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu t'a-t-il vraiment appelé à ça ? Est-ce que vraiment tu... Non, mais tu es quelqu'un comme un autre, puis bon, ben, peu importe si ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. » Il ne s'agit pas de dire « J'ai toute l'importance », mais il s'agit de comprendre qu'on a de l'importance dans le plan et dans le cœur de Dieu. Que notre vie, c'est pas juste, elle n'est pas juste appelée à vivre, à mourir, et puis basta. On est appelé à porter du fruit, à marcher dans la volonté de Dieu, à marcher ensemble avec Dieu. Parce que si Adam, il a voulu faire cette action-là, de dire « Moi, je suis là, je suis tout-puissant », il n'aurait pas confié les clés à Adam de la création et du jardin d'Éden. Il n'aurait pas rendu participant de son œuvre. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu veut nous rendre participants de son œuvre. C'est pour qu'on puisse marcher avec lui. C'est pour qu'on puisse cheminer avec lui. Et qu'on puisse aussi le réaliser. Lorsque les disciples d'Emmaüs, ils marchaient avec Christ, ils croyaient marcher avec un étranger. Ils marchaient avec quelqu'un, ils étaient avec quelqu'un, ils ne savaient pas qui c'était. Ils parlaient, mais ce que cette personne leur disait, ça leur chauffait le cœur, ça leur disait « c'est incroyable ». Et il a fallu attendre qu'ils attendent avant de réaliser « Oh ! Mais c'était lui ! C'était avec lui qu'on marchait depuis tout à l'heure ! C'était avec lui qu'on a marché toute l'après-midi ! C'était avec lui qu'on a parlé tout le temps ! C'était avec lui ! Parce que Dieu est présent dans notre vie pour marcher et pour cheminer avec nous. Pas juste pour parler du haut du ciel et de manière très élevée comme on pourrait l'imaginer dans d'autres religions. Dieu est loin et le peuple et les hommes sont éloignés surtout. Il ne faut pas même espérer que Dieu vienne au milieu de nous. Mais Christ est venu au milieu de nous. S'il s'est fait en tant qu'homme, il a pris la position d'homme pour mourir, lui qui était en forme de Dieu, lui en qui vivait l'Esprit Saint. Et il a accepté d'aller jusqu'au bout et de payer pour nos péchés, alors même qu'il était parfait. Il a cheminé avec nous. Et il a dit, toutes les fois où vous priez, là où deux ou trois sont réunis, là aussi je me tiens. Là aussi je me tiens. Alors si le diable nous dit, non mais tu n'as pas d'importance, Dieu, pour Dieu tu es, quoi, c'est ça quoi. C'est pas ça qu'il faut écouter. C'est aux promesses de la parole de Dieu qui nous disent « Nous avons de l'importance au cœur pour le cœur de Dieu. » Peu importe ce par quoi passent nos vies. Ce n'est pas les circonstances par lesquelles passent nos vies qui déterminent l'amour de Dieu à notre égard. Mais cet appel qu'il a manifesté pour nous dans un jour dans notre vie, il ne s'agit pas de dire « Oui, mais ça c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, les choses sont différentes et je ne ressens plus du tout l'amour de Dieu. » Je ne sens plus du tout que Dieu il est là, présent dans ma vie. Je n'ai pas l'impression de ça. Pourtant, Dieu chemine avec nous, chaque instant, chaque moment, chaque jour. Actes chapitre 17, verset 28 nous dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et chaque seconde, nos poumons respirent. » Chaque seconde, nos membres bougent. Et un jour, si des gens, à un moment donné, sont paralysés d'un membre, ils se rendent compte de ce que ça fait, ce membre qui est là, mais qui n'est pas là, ou certains qui sont amputés, ils se rendent compte de ce que ça fait. Ils le sentent encore. Mais Dieu est présent avec nous. Chaque moment, chaque instant, en lui, nous avons le vie, le mouvement et l'être. Et ce n'est pas quand ça manque que nous devons réaliser que c'était le cas. Ce n'est pas lorsqu'un jour, la maladie vient dans notre vie qu'on doit réaliser que je dois me rapprocher de Dieu. C'est tous ces moments-là qui passent, dans lesquels nous avons à être proches et à comprendre et à accepter, parce que c'est aussi une acceptation, de ne pas remettre en question l'amour de Dieu pour nous. De ne pas remettre en question l'appel de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas du passé, c'est aujourd'hui, c'est chaque jour. Chaque jour est un jour que Dieu fait. Chaque jour est un jour dans lequel Dieu nous appelle à faire quelque chose. Paul pouvait dire « Christ m'a envoyé ». Et il répondait à une requête du Seigneur sans laquelle sa mission perdait tout son sens. Ça ne servait à rien à Paul d'aller de droite, de gauche pour prêcher l'Évangile si lui-même n'avait pas été appelé. Ça ne servait à rien, juste de le faire, de faire pour faire. Mais il a reçu un appel et il était confiant là-dedans. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Christ m'a envoyé. Ensuite, il nous parle de la motivation. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et il faut prendre garde dans notre cheminement, dans notre manière de faire les choses, à notre motivation. On peut se tromper, effectivement, mais la clé, des fois, c'est de dire, mais quelle est ma motivation là-dedans? Est-ce que ma motivation, c'est effectivement de gagner plus d'argent? Ça apparaît de suite. Là où peut-être il y a des défauts. Est-ce que ma motivation, c'est d'être, je ne sais pas, plus à l'aise? Est-ce que ma motivation, c'est de servir Dieu? Est-ce que ma motivation, c'est de lui obéir? Et Paul n'était pas là pour faire du nombre, pour faire du chiffre. Il a été appelé pour annoncer l'Évangile. Et ce qu'il fait, c'est annoncer l'Évangile. Et son objectif, ce n'est pas de baptiser des gens. Les baptêmes, c'était la conséquence de l'annonce et du fruit que porte l'annonce de l'Évangile dans le cœur. Mais il n'était pas en train de suivre un registre en disant, ok, là on en a eu 20. Là, on a eu 300, ouah, ça pose là, c'est bien. Là, on en a eu 2, 3, ouais, c'est pas terrible. C'est pas pour baptiser. Son objectif, c'était pas faire du chiffre, c'était pas un commercial, c'était pas quelqu'un qui avait à vendre quelque chose et qui, à la fin du mois, il voit s'il a une prime ou autre chose. C'est pas ça. Il était là juste pour annoncer l'Évangile. Son objectif, c'était de donner la parole de Dieu. Il donnait la parole de Dieu. Il donnait la parole de Dieu et il n'attendait rien en retour. Lorsqu'à certains moments, il était dans le besoin, certains pourvoient à ses besoins, et il écrit dans ses lettres, « Merci de ce que vous avez pourvu, je suis passé par la famine, je suis passé par tout un tas de choses, et aujourd'hui, Dieu pourvoit. » Son objectif, ce n'était pas le rendu qu'il avait. Bien sûr, c'est important. C'est important quand il a été honoré par des ministères, par des églises, par des dons, par des finances, c'est important. Mais son objectif, ce n'était pas celui-là. Ce pourquoi Paul vivait, c'était pour annoncer l'Évangile, accomplir la volonté de Dieu. Peu importe la conséquence, peu importe s'il allait être riche ou s'il allait être pauvre, ce n'était pas ça. C'était qu'il accomplisse la volonté de Dieu, annoncer l'Évangile. Lorsque Moïse a rejoint le Seigneur, derrière lui, il a laissé une œuvre. On peut dire qu'il était normalement, il devait rentrer dans le pays promu. Promis. Il devait rentrer dans le pays promis. Mais il n'est pas rentré dans le pays promis. À la suite, après avoir passé 40 ans dans le désert, Moïse a fait une erreur parce qu'il était le représentant de Dieu. Et qu'en tant que représentant de Dieu, il représentait la personne de Dieu. Ses motivations dans ce qu'il faisait avaient un impact sur ce qu'il pouvait faire. Et quand à un moment donné le peuple réclamait de l'eau, Moïse s'est énervé. La Bible nous dit, il s'est énervé, il a frappé le rocher du bâton et Dieu n'a pas empêché l'eau de couler. L'eau a coulé. Ce qui devait se produire s'est produit. Mais par contre, Dieu lui fait un reproche, il lui dit, mais là, tu t'es énervé, c'était pas moi. C'était pas ce que je voulais. Alors, on n'est pas parfait, bien sûr, mais on est appelé à des représentants de Dieu et à être gardé dans cette vision de Dieu. Et Moïse, lui, était, il a été pris dans ce, dans son... Est-ce qu'on peut le reprocher? Je ne sais pas si j'aurais pu mieux faire, moi, hein, personnellement. C'était quand même agaçant. Il y avait un peuple qui était là, qui râlait tout le temps. Et donne-nous ci, et donne-nous ça. Et on peut se dire que, vraiment, Dieu est patient. Et Dieu est patient avec nous aussi. Amen. Dieu est patient avec nous. Il n'y a pas de demande qu'on peut lui faire qui pour lui, il va dire, oh, il m'agace. Il ou elle m'agace. Mais Moïse, lui, sur ce point-là, alors qu'il a erré 40 ans dans le désert, qu'il était sur le point de pouvoir entrer dans le pays promis, Dieu lui dit, ben, tu vois là, les gens te voient parce que tu es représentant de Dieu. Tu représentes, et là, c'était pas moi. Et du coup, sur cette erreur-là, donc là, ça plaçait la barre haute hein, quand même, hein, sur cette erreur-là, il n'a pu qu'observer le pays promis du haut de la montagne avant de rejoindre le Seigneur. Alors, c'est dur, quand même. Mais ça montre, ça met le point, ça met l'accent sur quelle est notre motivation dans ce que nous faisons. Et je pense que c'est une bonne question à se poser. Et le garant de notre motivation, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Celle qui nous ramène à la norme. Celle par laquelle, d'ailleurs, une fois quand Moïse était parti, il y a Josué. Josué, il a pris la relève. Alors par la suite, il a dit, et Dieu lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Agir fidèlement, c'est pas seulement faire, mais agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'est pas opposé à la réussite. Il n'est pas opposé à avoir du succès dans nos entreprises. Mais le seul problème, c'est si nous avançons sans Dieu à nos côtés. Sans nous poser la question de qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce que je me trouve? Est-ce que ça te pose un problème si je fais ça comme ça? Je vais dans cette direction, Seigneur, montre-moi. Montre-moi le chemin. Et Christ... Mets en garde contre toutes les choses qui chercheraient à étouffer, à diminuer la parole de Dieu, l'évangile dans notre vie, et finalement aussi dans notre témoignage. Parce que quand on étouffe la parole de Dieu, quand on étouffe ce que Dieu veut faire, finalement c'est notre propre témoignage qui s'étiole petit à petit. Et un jour on se dit, mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Alors peut-être Dieu a la capacité de nous ramener, de ramener à bon port, mais ça a été le témoignage d'une personne et qui nous dit de, voilà, c'est pas juste le fait de venir à l'église qui nous garde, c'est le fait que la parole de Dieu fasse son travail dans nos cœurs, c'est le fait que par sa parole, Dieu est en mesure de rétablir la vérité dans nos vies sur ce que nous vivons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'a pas du sens? Et c'est aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 10 qu'il est dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut savoir, alors bien sûr on peut se réjouir, hein, mais il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir regarder nos vies et à un moment donné dire où est-ce que j'en suis avec Dieu. Où est-ce que Dieu en est dans ses projets avec moi. Pour pouvoir éventuellement revenir pour laisser la parole de Dieu. Laisser l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies se faire. Ensuite, Paul a dit, c'est sans la sagesse du langage. Donc ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et ce, sans la sagesse du langage. Et ça devait être quelque chose de pas évident pour Paul, parce que Paul était quelqu'un qui était lettré. D'accord ? Comparé à d'autres personnes à l'époque, lui, il savait lire. Il avait étudié au pied de Gamaliel, donc qui est un docteur connu même dans des courants actuels juifs. Quand vous parlez de Gamaliel à un juif, il dit « Ah oui, je connais Gamaliel, mais comment ça, c'est dans la Bible ?»« Oui, c'est dans la Bible. » Et il en parle. Alors après, il prendra peut-être ses distances, mais c'était quelqu'un de connu, un enseignant. Et Paul a étudié au pied de Gamaliel. Et c'est quelqu'un qui était versé dans la parole, versé dans l'écriture, versé dans la connaissance de la Bible. Et je pense que c'est important de savoir, de se dire, ok, je veux connaître la Bible, je veux connaître la parole, je veux encore plus creuser ce livre, soit par la théologie, soit par des études, soit par la lecture assidue de la parole de Dieu quotidienne. Oui, mais ce n'est pas sur notre intelligence, ce n'est pas sur ma capacité à défendre un point ou un autre sur lequel dans lequel Dieu m'attend. C'est dans le fait de savoir me reposer sur ce que lui est en mesure de faire, sur ce que lui est capable de faire. Parce que c'est un petit peu comme Abel et Caïn. Abel et Caïn ont fait tous deux des offrandes, sauf que Abel lui a offert un agneau, d'accord, dans lequel, je veux dire, il n'avait rien fait de particulier. C'était l'œuvre, le miracle de la vie de Dieu qui était là pour lui. Il a offert un agneau, tandis que Caïn, lui, ben, il a offert son dur labeur, ce qui lui a coûté. C'est-à-dire tous les blés, les offrandes de la terre. La terre qui était marquée par la malédiction, mais qui était cette malédiction qui était la même, celle-là même qui disait à l'homme, tu vas devoir souffrir pour travailler, tu vas devoir travailler pour que, c'est pas les plantes qui vont te donner leur truc comme ça, c'est tu vas devoir travailler pour avoir des fruits, pour avoir du résultat. Et donc Caïn a apporté ça et forcément ce que Dieu choisit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre du miracle de la vie. C'est ce en quoi l'homme a su reconnaître que Dieu avait fait un miracle, que Dieu avait fait quelque chose. C'est ça que Dieu a créé. Ce n'est pas le fait que quelqu'un travaille de manière éperdue à une œuvre et qu'à un moment donné, il dit « voilà, j'ai fait ça ». Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est dans quelle mesure, dans cette œuvre, il y a le miracle de Dieu. Même si on travaille derrière, même si on voit l'œuvre de Dieu, même si quelqu'un il travaille dur pour avoir des affaires, il voit des affaires qui lui arrivent d'une manière ou d'une autre, il se dit « mais comment ça se fait ?» Comment c'est possible que... Et reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Et c'est là qu'il y a le miracle de Dieu. Quand je témoignais tout à l'heure de ma sœur n'a rien fait pour que son mari lui téléphone en pleurs et dise « voilà, j'ai compris pourquoi Dieu est mort pour moi, pourquoi Christ est mort pour moi. » Elle n'a rien fait pour ça. Il y a une œuvre de Dieu. Il y a des semences. Il a vu ce qui se passait dans la vie de ma sœur. Ça l'a interpellé, ça l'a poussé à creuser, à chercher, à comprendre, à réfléchir dans son côté qui est assez rationnel en fait. Et l'œuvre, là, Dieu a fait un travail, Dieu a fait une œuvre. Et je suis content d'imaginer les retrouvailles de ma sœur et de mon beau-frère, parce que ben, ils étaient à distance. Ça. Donc je suis content d'imaginer ça. Parce qu'entre eux deux, malgré la distance, Dieu a fait une œuvre. Et c'est cette œuvre-là qu'il est important de souligner. Pas ce qui est l'œuvre de nos propres mains, de nos propres cogitations, ce que je suis capable ou en mesure de faire. Paul ne mise pas sur un quelconque pouvoir de persuasion. Il a essayé à Athènes. Hein. À Athènes, il a essayé de converser, de parler avec persuasion face face à des personnes qui avaient l'habitude de disserter, de discuter de choses et d'autres, de sujets philosophiques. Ils ont dit, c'est quand même une philosophie étonnante ce que lui nous prêche, hein, mais c'est resté une philosophie pour eux. C'est pas là-dessus que Paul, et je pense que Paul a dû en tirer quand même des fois des leçons. En tout cas, il ne cherche pas à convaincre par des méthodes philosophiques ou autres. Il prêche la croix. Il prêche l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il prêche ce que Dieu a fait et il prêche ce que Dieu a accompli. La prédication de la croix ne repose pas sur la puissance du raisonnement humain et sur une argumentation solide, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Paul disait. La prédication ne repose pas sur mon raisonnement, mais sur ce que le Saint-Esprit accomplit. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, disait Paul. Et c'est parce que l'homme cherche de manière naturelle, dans sa force, une gloire. Vous et moi, chacun d'entre nous, on y passe tous. On cherche tous à un moment donné ou à un autre, dans notre propre force, à mettre en avant une petite gloire. Une quelconque gloire. Et c'est là où Dieu veut faire ce travail pour qu'on reconnaisse que c'est lui qui est à l'œuvre. 2 Corinthiens 13, verset 4, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Disait encore Paul. Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Sa faiblesse d'avoir été un homme. Parce que Dieu s'est abaissé en tant qu'homme. Il est capable de tout. Il est capable de tout faire. Et Christ s'est manifesté en tant qu'homme pour manifester là aussi la faiblesse de l'homme, mais aussi, surtout et avant tout, la puissance et la gloire de Dieu. La puissance de la manifestation de Dieu. Là où l'homme ne sait pas vaincre le péché, la puissance de Dieu, c'est vaincre le péché. C'est vaincre la mort. C'est vaincre les ténèbres. C'est vaincre toutes sortes de choses que pour lesquelles nous, ce sont des barrières insurmontables. Et il disait, enfin, que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est la finalité. Quel était son objectif? Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il n'y a rien duquel il peut se targuer. Paul n'a rien sur lequel il peut se targuer. Il a été appelé, il a annoncé, il a semé, il a vu du fruit, mais dans tout ça, il a été le témoin de la gloire de Dieu. Il a été le témoin de cette grâce. C'est un privilège qu'il a vécu de vivre cette grâce, de voir l'œuvre de Dieu à l'œuvre, et qu'on peut continuer à voir. Et j'aime bien ce passage dans Actes 4, où des gens sont, les disciples sont menacés, d'accord, par les autorités de mort. Ils sont cachés, ils ont annoncé Christ. Ils ont annoncé Jésus-Christ, il y a eu plus de 3000 conversions qui sont produites, et ils voient des miracles chaque jour. Et les autorités veulent leur faire la peau, quoi. Je veux dire, on va un peu s'en débarrasser. On va s'en débarrasser. Mais la prière des disciples, moi, m'a toujours beaucoup touché. C'est que quand les disciples prient, ils ne prient pas pour que toutes les difficultés, tout ce à quoi ça leur soit écarté, pour qu'ils puissent mener une vie tranquille et sans problème. Mais ils ont prié, et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Tu vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Tu vois leur menace. Ils n'ont pas prié en disant garde-nous de leur menace. Tu vois leur menace, et bien donne à tes serviteurs, ils en demandent encore, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Donc c'est un acte 4, verset 29-31. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Ils avaient soif de voir Dieu à l'œuvre. Peu importe ce qui se passait, le témoignage qu'ils avaient reçu de Christ était plus grand que la menace qui était en face d'eux. Et donc on pourrait comprendre qu'avec les persécutions, les disciples, ils prennent garde. Mais eux, ils ont prié comme ça, leur préoccupation, c'était celle de pouvoir continuer à annoncer l'Évangile, pouvoir continuer à œuvrer pour le Seigneur, pouvoir continuer à marcher dans la volonté de Dieu. Et il y a des chemins par lesquels Dieu nous fait passer, des fois qui sont des chemins de souffrance, qui sont des chemins de difficulté, où on ne comprend pas, où on ne sait pas. Voilà, pourquoi est-ce que je passe par tout ça ? Si on ne passait pas par ces chemins, peut-être qu'on n'aurait pas d'occasion de rendre gloire à Dieu. Parce que quand on sort de ce chemin, on se dit waouh. Et en même temps, vous savez, c'est comme, j'ai un peu l'image de deux trains dans lesquels on peut choisir de passer et supposer qu'on ait peur, qu'on ait phobie du noir, qu'on ait peur du noir, qu'on n'ait pas envie du noir. Il y a deux trains, il y a l'un qui passe par un tunnel et l'autre qui fait le tour de la colline. Et si on vous demande quel train vous prenez, vous avez peur du noir, instinctivement, vous allez dire « je vais prendre le deuxième, je préfère que l'autre, ça dure plus longtemps », mais en même temps, mais celui par lequel on passe dessous la colline, on a peut-être peur du noir, mais déjà, d'un, c'est un raccourci, et de deux, il nous montre que notre peur, elle ne sert à rien. Et des fois, les difficultés par lesquelles on passe nous montrent que les peurs qu'on a pu avoir auparavant ne servent à rien. Finalement, on a traversé le tunnel, on est passé et par la grâce de Dieu, c'est probablement un raccourci plutôt que de passer par un autre chemin, peut-être bien plus long, où on serait encore resté avec notre peur. parce que Dieu, au travers des épreuves et au travers du cheminement que l'on fait, par lequel il nous fait passer, il prend soin aussi de corriger nos vies, de guérir, de mettre le point sur l'accent, sur une pierre qui est remontée à la surface. Vous savez, hein, quand on cultive la terre, il y a toujours des pierres qui remontent à la surface. Vous avez beau cultiver, passer le motoculteur tous les ans, je vous assure, tous les ans, vous trouverez des pierres qui remontent à la surface. Vous dites, bah ouais, je les ai toutes enlevées l'année dernière. Il y en a toujours qui remontent à la surface. Et Dieu sait faire remonter les pierres de nos vies, profondément enfouies, à la surface, pour que dans notre cheminement, on puisse se séparer de ces pierres-là, et qu'on puisse avancer avec Dieu, et que notre propre terre soit cultivable, soit une terre avec un terreau, qui est bien noir, qui est bien sombre à un moment donné, parce que voilà, cette terre, elle a travaillé, mais ça se fait avec le temps. Et ça se fait aussi en prenant le temps de prendre ces pierres-là et de les jeter sur le côté. Et à l'époque, quand on faisait ça, on jette les pierres sur le côté, ça faisait des murets aussi pour délimiter, pour que d'autres personnes ne viennent pas embêter. Donc Dieu pourrait aussi utiliser ça pour savoir. Je m'arrête avec l'image. Mais même Christ, nous dit Hébreux, Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça doit bien rester gravé dans nos consciences quand on passe par des souffrances, quand on passe par des difficultés. Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de la souffrance, ce n'est pas parce que je souffre que je suis dans la volonté de Dieu, soyons clairs. C'est pas ça le but. Mais si notre vie en prend le chemin, il ne faut pas occulter la puissance de Dieu dans ce qui peut se produire. Et revenir au souvenir de cet appel que Dieu a placé dans nos vies. Au souvenir de cet appel qu'il a formulé à notre égard et qui est irrévocable, irrémédiable. Dieu nous a appelés pour son royaume. Dieu nous a appelés pour son royaume et son désir, c'est qu'on garde le bon cap. Qu'on garde le cap. Il y a des fois, on dévie un peu, à droite, à gauche, on ne sait pas tout le temps, mais notre désir, l'objectif, la motivation de notre cœur, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors le cap pourra être gardé, parce qu'on sera plus attentif. On sera plus attentif de comprendre que c'est par lui que nous pouvons accomplir toute chose. Et je vais terminer ce passage dans Romains 11, 36, qui est dit, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Amen.
À lui seule la gloire pour ce qu'il accomplit. Gardons en pensée, gardons en mémoire que tout vient de lui. Tout est par lui, tout est pour lui. Soyons attentifs sur notre chemin à ne pas dévier, à ne pas nous égarer. La parole de Dieu est celle qui nous garde dans la vérité. Celle qui peut nous reprendre, celle par laquelle il peut nous parler, même nous réveiller dans la nuit pour nous dire quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de me réveiller dans la nuit avec un verset. Et dans la nuit, je suis allé feuilleter la Bible et c'était un passage qui me parlait et qui était vraiment... j'avais oublié que ça pouvait être dans tel verset, dans tel chapitre, dans tel verset. Ça peut arriver parce que Dieu parle de la manière dont on ne se doute pas forcément. Il a tous les moyens à sa disposition pour nous parler. C'est nous, des fois, qui limitons ces moyens en attendant une grosse voix. Je dis, mais si Dieu ne me parle pas, j'attends cette grosse voix. Mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui sont là. Il y a d'autres éléments qui sont là dans notre vie pour nous indiquer, pour nous dire, ok, mais continue d'avancer. C'est bon, il n'y a pas de souci. Continue d'avancer. L'adversité qu'on rencontre, Dieu est capable de le renverser. Dieu est capable de le retourner. Mais ce ne sont pas des occasions pour remettre en question l'engagement de Dieu vis-à-vis de nous. Ce ne sont pas des occasions pour nous poser la question de savoir où se trouve Dieu. Il est là, près de nous. Il nous entoure, en haut, en bas, par derrière, par devant. Dans tous les côtés, il est là, présent, au milieu de nous. Chaque jour, je serai au milieu de nous. C'est ce qu'il a dit. Et c'est l'assurance que nous devons avoir en tant que croyants. L'assurance de cet appel. Gardez le cap, cette motivation qui est en Dieu, qui est en Christ. Amen.
Amen.
Je vais prier. Seigneur, tu es celui qui conduit, Seigneur, nos vies dans des fois des perturbations, Et quand les avions circulent dans le ciel, ils peuvent connaître des trous d'air, ils peuvent connaître des choses qui, à la vue de l'intérieur, paraissent tellement... ça y est, tout va plonger, l'avion va partir, et puis ça y est, on va mourir. Plein de gens qui ont pu vivre ça, Seigneur, mais ce sont juste des situations où on n'a pas l'habitude. Et Seigneur, toi, tu connais les perturbations, les trous d'air qu'il peut y avoir dans nos vies, mais ce sur quoi je voudrais vraiment revenir, c'est sur ton appel dans nos vies. Là où tu as, Seigneur, cherché nos cœurs, là où tu as cherché, Seigneur, à commencer ce cheminement avec nous. Et des fois, on ne se doute pas de combien tu cheminais avec nous avant même nous le réalisions, comme les disciples d'Emmaüs. Et à un moment donné, on a dit, « Ah, mais c'est ça, c'est toi, Seigneur, tu es là, tu es présent dans ma vie, je te donne mon cœur. » Mais ce cheminement, il avait peut-être déjà commencé bien avant. Parce que tu es plein d'amour, Seigneur, et que tu as cet amour, Seigneur, versé à notre égard. Versé à notre égard pour accomplir ta volonté, pour... Seigneur, rentrez dans la volonté du royaume de Dieu. Rentrez dans cet objectif, Seigneur, que toi-même tu veux, Seigneur. Merci, Seigneur, de prendre soin de nos vies. Merci, Seigneur, aussi de les diriger, de les inspirer. Si quelque chose, Seigneur, n'est pas en accord avec toi, merci, Seigneur, d'écarter cette chose-là. Merci de montrer comment, Seigneur, nous pouvons rester fidèles, Seigneur, à ta volonté. Fidèle, Seigneur, à ce que toi tu veux accomplir. Parce que tu es celui, Seigneur, qui accomplit toutes choses, et ce que nous pouvons faire, Seigneur, nous n'avons aucun orgueil, rien à nous enorgueillir, Seigneur. C'est vrai que c'est un peu notre ennemi, l'orgueil. Mais, Seigneur, ce n'est pas là-dedans, Seigneur, que ça se trouve. C'est vraiment lorsqu'on regarde, qu'on prend une pause et qu'on se dit, Seigneur, tu es vraiment là. Je veux te rendre gloire. Je veux te bénir. Je veux t'élever. Je veux te remercier. Pour toutes les fois où tu t'es trouvé, Seigneur, dans mon cheminement. Des fois, je ne comprends pas, des fois, je ne sais pas, mais Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Et tu sais comment prendre soin, Seigneur, de nos vies, pour les amener à bon port, pour leur donner du succès. Pas forcément le succès qui est présent dans le monde, mais le succès qui, à tes yeux, est un véritable succès, le succès de la vie. La paix, la joie et le bonheur en toi. Merci Seigneur pour le calme, la patience, la confiance que tu nous donnes dans ta présence. Qu'elle soit Seigneur vraiment notre repère. Qu'elle soit que vraiment ta présence et le calme qui l'accompagne, la paix qui l'accompagne, soit vraiment notre repère pour marcher et avancer avec toi et nous sachions être attentifs. Seigneur, aux fluctuations Seigneur, pas aux fluctuations de la vie, mais aux fluctuations Seigneur de là où nous dévions Seigneur de ta présence. Au nom de Jésus. Amen.
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 Amen. Amen.